Vous écoutez
RMC.
Vous êtes bien sur RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est déjà la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui commence. Un peu moins de cortège, un peu moins de perturbations, mais déjà une ambiance électrique à l'Assemblée où le RN se dit victime de messages malveillants. La terre a encore tremblé cette nuit en Turquie, réplique à 5,6 sur l'échelle de Richter. Dernier bilan de plus de 4300 morts. Et vous entendrez le témoignage RMC d'une voisine de la maison ravagée par les flammes hier dans le département de l'Aisne.
Quelle sera l'ampleur de la mobilisation contre la réforme des retraites? C'est la question que tout le monde se pose ce matin.
Eh bien, pour le savoir, RMC est de retour à Guéret, la préfecture de la Creuse, qui sert un peu de thermomètre à cette mobilisation. Il y avait énormément de monde dans la rue le 19 janvier dernier. Il y en avait encore plus le 31, quasiment 5000 manifestants pour 13000 habitants, beaucoup de fonctionnaires. Mais cette troisième journée tombe pendant les vacances scolaires et dans une semaine de double mobilisation. Alors, eh bien, c'est l'incertitude, nous dit Caroline Philippe, de retour à Guéret pour RMC.
Trois journées de grève en moins de trois semaines pour Amandine Cétro. Elle a débrayé le 19 et 31 janvier, mais pas cette fois.
J'ai aussi du travail à faire et que je suis seule sur mon poste. Donc si je ne suis pas là, il n'est pas fait. Donc je prends énormément de retard. Si ça perdure, je pourrais le refaire. Mais là, c'était voilà, les journées de manifestation étaient trop rapprochées les unes des autres.
Trop rapprochées aussi pour les finances. Sabrina, professeure des écoles, espère que le corps enseignant profitera des vacances scolaires pour se mobiliser.
Ça nous fera une journée de salaire à perdre en moins. Parce que deux grèves sur le même mois, c'est quand même assez compliqué parce que nos salaires sont quand même loin d'être élevés. On fait ce qu'on peut.
Les vacances peuvent tout bouleverser, mais Laurent Margherita, secrétaire général de l'Union départementale CGT en Creuse, essaye de rester positif.
Par exemple, les retraités peuvent avoir les petits-enfants en garde. On a des gens qui sont aussi partis pour les congés. Par contre, on a des salariés qui vont nous rejoindre pour la première fois. On n'est pas à l'abri que des vacanciers prennent sur leurs jours de vacances pour venir nous renforcer dans la manif. Hein.
Il mise aussi sur l'opération Escargot, organisée après la manifestation pour tracter et convaincre la population de descendre dans la rue samedi prochain.
Et les syndicats comme les autorités s'attendent à une forte mobilisation, toujours aujourd'hui, mais moins massive que les deux premières. 250 cortèges contre 268 le 31, toujours encadré par 11 000 policiers et gendarmes. Ce sera à 10h tout à l'heure à Toulouse et Bayonne, 10h30 à Marseille et Nantes, 11h à Rennes et Montpellier, midi à Bordeaux et Lyon, 14h à Paris, entre Opéra et Bastille. Le principal syndicat étudiant promet ce matin sur RMC de se joindre au mouvement. Et c'est dans un climat donc très électrique que les débats ont commencé dans l'hémicycle à l'Assemblée.
Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle? Oui? Vous ne croyez pas que nos compatriotes méritent mieux que ça?
Des engagements présidentiels.
Mes chers collègues, on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
Voilà, vous entendrez la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, obligée de s'époumoner tout simplement hier après-midi. Motion de rejet, motion référendaire repoussée. D'ailleurs, le RN dit avoir été victime de manœuvres d'intimidation au moment de sa motion référendaire. Écoutez ce qui s'est passé avec Romain Cluzel du service politique à RMC.
Il est 18h50 lorsque Laurence Robert-Dehau reçoit un message vocal.
Oui, bonsoir, Madame Robert-Dehau.
De l'autre côté du fil, un homme prétendument employé d'un hôpital de sa circonscription à Saint-Dizier.
Qui disait qu'un de mes proches avait été hospitalisé en urgence. Moi, j'ai trois enfants, j'ai trois petits-fils et j'ai évidemment été extrêmement inquiète. Sur le coup.
Très vite, la députée RN réalise qu'il s'agit d'une supercherie. Deux de ses collègues ont reçu le même type de message à quelques minutes d'intervalle, alors que leur présence était à ce moment-là essentielle pour défendre une motion référendaire. Pour la présidente du groupe, Marine Le Pen, il s'agit d'une manœuvre.
Je crains, hélas, que ce soit en quelque sorte un coup interne à cette Assemblée, car il faut quand même bien connaître la procédure. Il faut vraiment être sacrément tordu. Alors, on va trouver qui sont ces tordus, et j'espère que la justice pourra être saisie et les condamnera extrêmement lourdement.
Le patron du parti, Jordan Bardella, pointe du doigt la NUPES. Ridicule, répondent plusieurs députés insoumis qui affirment condamner ces pratiques.
Et comme les deux dernières fois, la CGT annonce ce matin environ 4500 mégawattheures de baisse de production d'électricité dans les centrales EDF. Ce matin, je vous rappelle que le trafic des trains est très perturbé aujourd'hui avec un TGV sur deux. En moyenne, ça restera perturbé demain, sachez-le, puisque la CGT et Sudrail vont continuer la grève. La SNCF communiquera les prévisions de trafic seulement en en fin de journée. Troisième journée de mobilisation et troisième journée spéciale réforme des retraites ce matin sur RMC avec un événement. C'est le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui sera l'invité d'Apolline tout à l'heure à 7h40 sur RMC. Face à vous, à 8h10, vous pourrez venir lui poser vos questions en composant un numéro que vous connaissez bien, le 3216. Pour l'heure, il est 7h05 sur RMC et une marche blanche est prévue samedi à Charly-sur-Marne, village de l'Aisne, bouleversé depuis l'incendie qui a décimé une famille dans la nuit de dimanche à lundi. Un feu a priori parti d'un lave-linge qui a tué 7 enfants et leur maman. Le père qui a senti une odeur de fumée est encore à l'hôpital. Écoutez le témoignage RMC ce matin d'une voisine qui a assisté de ses propres yeux au drame.
Ça devait être un sapeur-pompier, mais qui n'était pas de garde, qui a commencé à défoncer les fenêtres pour faire sortir le monsieur qui était à l'intérieur. Il hurlait, le papa, il était « mes enfants, ils sont là-haut ». J'ai même donné un plaid parce que le pauvre, il était en caleçon, hein, il sortait de son lit très certainement. Et puis après, ils ont appelé les pompiers, même moi j'ai appelé les pompiers, de se dire qu'on est en bas spectateur de tout ça, alors que y a des enfants qui sont en train de mourir à l'étage, moi ça me...
Et j'ai des enfants, donc mon cœur de maman... Voilà, ça a été très difficile.
La terre a encore tremblé cette nuit en Turquie, réplique à 5,6 sur l'échelle de Richter dans le centre du pays. Au lendemain des deux puissants séismes à 7,8 et 7,5 qui ont fait plus de 4300 morts en Turquie et en Syrie, Le Monde apporte son aide. La France a envoyé hier soir 135 secouristes et 40 tonnes de matériel pour les recherches. Des recherches qui ont continué toute la nuit dans le froid pour tenter de retrouver des survivants, comme ici dans le sud-est turc avec Pierre Bourges pour RMC.
Des hurlements de soulagement. Ce père s'effondre dans la neige et enlace sa fille. Il vient de la retrouver vivante dans les décombres de leur habitation. Quelques instants plus tard, son fils lui aussi est sorti vivant des ruines. Un miracle alors que secouristes et bénévoles travaillent sans relâche dans le froid, avec des pelles et parfois même à la main. Tous fouillent les décombres pour sauver le maximum de victimes prises au piège.
Mon petit-fils a 18 mois. S'il vous plaît, aidez-le, s'il vous plaît. Il était au 12e étage.
Comme Imran, cette grand-mère qui habite à Adana, dans le sud du pays, ils sont nombreux à s'inquiéter du sort de leurs proches. Dans le même bâtiment effondré, Osman, les mains noires et les traits tirés, cherche sa belle-sœur.
Son corps est dans ce coin-là, on l'a vu. Faites que Dieu la protège et qu'elle soit encore en vie.
Dans le pays, les immeubles effondrés se comptent par milliers et les conditions météo difficiles compliquent le travail des secouristes, mais aussi la vie des habitants, désormais sans logement.
Un chiffre ce matin, c'est le bilan des soldes, mieux qu'en 2022, on s'y attendait. Chiffre d'affaires en hausse de 6% sur les trois premières semaines, nous dit ce matin l'Alliance du Commerce, mais c'est un trompe-l'œil dans un contexte de casse sociale pour l'habillement. Moi, j'ai acheté des baskets, mais elles n'étaient pas en solde.
Moi, je crois que j'ai acheté que des vêtements pour les enfants.
Moi, j'ai fait comme le PSG, j'ai
pas fait les soldes.
C'est cohérent.
Rien acheté. Faites comme le PSG. Quoi.
Exactement. Hein,
pas de rien acheté.
Pour l'enfant.
Vous voyez ce qu'on est devenu. Il est 7h08, c'était le journal de Quentin Vinet.
RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous. Avec vous donc, Amélie Rosic. Amélie, vous avez été contactée à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr par une famille endeuillée.
En avril 2021, Agostinho, 64 ans, est brutalement emporté par le Covid. Ouvrier dans le bâtiment, il s'apprêtait à prendre sa retraite. Son épouse, Elisa, est dévastée. Près de 2 ans plus tard, sa douleur reste vive, vous allez l'entendre. Et comme si cela ne suffisait pas, Elisa doit se battre contre la machine bureaucratique française pour toucher la pension de réversion à laquelle elle a le droit.
Ça a été un grand choc pour moi, pour mes filles, pour mes petits-enfants.
On ne s'attendait pas vraiment à ça.
On en souffre encore aujourd'hui.
Oui.
Et c'est dur, c'est très très dur. Heureusement que ma fille était là, parce que moi, je ne connais rien à tout ça. Je ne suis qu'une femme de ménage, je n'ai pas fait d'études. Et heureusement que mes filles sont dedans et qu'elles arrivent un peu.
Oui, oui, du coup on est le support émotionnel et on s'occupe effectivement beaucoup de l'administratif parce que c'est hyper lourd.
Très lourd, effectivement. La pension de réversion existe pourtant pour tous les couples mariés. C'est une partie de la pension qu'Agostinho aurait dû percevoir à la retraite, qui est reversée au conjoint survivant, en l'occurrence à Elisa. Dans son cas, on ne connaît même pas encore le montant, car l'assurance retraite n'est même pas allée jusqu'à la calculer. Le dossier a bloqué avant.
Mais qu'est-ce qui bloque dans ce dossier ?
Le numéro de sécurité sociale, figurez-vous. En France, vous le savez, vous en avez un, tout le monde en a un, il est unique et vous le conservez jusqu'à la fin de votre vie. Ça, c'est sur le principe. Eh bien, Elisa, elle en a deux Oui, oui, deux numéros de sécurité sociale. Et selon l'assurance retraite, c'est ça qui bloque. De 1976 à 1978, Elisa aurait travaillé et cotisé sous un autre numéro de sécurité sociale, sauf que cette période ne correspond à absolument rien dans la vie de cette Portugaise, arrivée en France bien avant. Et surtout, ça ne change rien à l'affaire. Sa pension est toujours bloquée.
Moi, je fais que des heures de ménage, j'ai pas un gros salaire. Voilà, pour eux, c'est rien, mais moi, même si c'est 50 euros par mois, c'est beaucoup pour moi. J'ai droit, donc je sais pas pourquoi ils mettent aussi longtemps à me donner ce qui m'est dû.
Et qu'est-ce que vous répond l'assurance retraite, Aménie ?
Alors d'abord, on a découvert qu'Elisa n'est pas la seule. Figurez-vous, les doubles numéros de sécurité sociale, c'est assez rare, mais ça existe, nous dit-on. Alors si, comme Elisa, vous êtes née à l'étranger à la fin des années 50, écoutez bien ce qui suit, parce que ça peut vous intéresser. C'est à votre arrivée en France qu'on vous a attribué un numéro, et il suffit que l'assurance maladie ait fait la demande en même temps qu'un employeur pour que ça crée un doublon dans les fichiers, sans même que vous ne le sachiez. L'assurance retraite nous explique néanmoins que les doublons finissent toujours par poser problème, en particulier lorsque les assurés font valoir leurs droits en fin de carrière. Pour Elisa, ces deux numéros ont enfin été fusionnés. C'est ce qui prend le plus de temps et ça, c'est grâce à nous. Son dossier est prioritaire, mais pour l'instant, l'assurance retraite ne nous a pas donné de date de versement. Donc, on restera évidemment vigilant à ce qu'Elisa touche cette pension de reversion.
Mais ce que je trouve fou, c'est qu'on lui reproche à elle d'avoir son double numéro, alors qu'en réalité, la pension vient de son mari.
Absolument.
Donc, on crée des problèmes de toute façon à l'arrivée, alors que ça devrait être éventuellement au départ. C'est sidérant. On pense bien sûr à Elisa, à ses filles qui sont à ses côtés. Et vous nous tiendrez bien sûr au courant, Amélie. Il est 7h12.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans un instant, on va reparler d'Estelle Mouzin. Pour la justice, l'enquête sur la recherche de la petite fille est officiellement terminée. 20 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, enlevée par Michel Fourniret, Éric Mouzin, son père, nous dira si pour lui aussi l'enquête est véritablement terminée. Il est le témoin RMC dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 et vous êtes bien sur RMC.
Le témoin RMC.
Le témoin, c'est vous, Éric Mouzin, bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes le père d'Estelle Mouzin. Estelle Mouzin, c'est cette petite fille qui avait disparu le 9 janvier 2003 au retour de l'école à Guermantes, en Seine-et-Marne. Son visage, on le connaît tous. Il a été placardé partout en France. Elle a été longtemps recherchée. Et puis l'enquête a été rouverte. Et Michel Fourniret et Monique Olivier ont été incriminés pour l'avoir enlevée et tuée. L'enquête est officiellement terminée. Est-ce que pour vous, elle l'est également ?
Oui, bien sûr. Je pense que Mme Kéris, depuis qu'elle a été en charge du dossier, a engagé toutes les instructions possibles et elle a mis en œuvre tous les moyens dont elle disposait pour clôturer le dossier. Elle a entendu les deux suspects qui ont fini par passer aux aveux. Les éléments matériels de leur participation à l'enlèvement et à l'assassinat d'Estelle sont démontrés par les traces ADN, par la recomposition de leur emploi du temps entre le jeudi et le samedi. Le seul élément manquant, c'est le corps d'Estelle, mais pour moi, l'instruction est effectivement terminée et la démonstration de l'implication de ces deux personnes ne pose pas de problème.
Pour vous, ça y est, c'est désormais su, c'est désormais donc clos. Qu'est-ce que vous ressentez du coup aujourd'hui ? Est-ce que vous attendez malgré tout un procès ? Évidemment, Michel Fourniret depuis est mort, mais ce serait Monique Olivier qui serait poursuivie pour complicité, voire même pour rôle actif. Vous attendez tout de même ce procès qui pourrait avoir lieu en novembre prochain ?
Oui, bien sûr, parce que je veux dire, la justice doit passer et maintenant que nous avons une personne qui est accusée et tous les éléments démontrent qu'elle est responsable, qu'elle a participé en tout cas, peut-être pas à l'enlèvement, mais en tout cas à la séquestration et à l'assassinat, ça je le sais pas, mais cette personne doit être jugée. Donc effectivement, il ne reste que Monique Olivier parce que l'instruction un peu chaotique du dossier dans sa première partie, c'est-à-dire avant que ça arrive dans le bureau de Madame Kéris, a fait en sorte que quand Michel Fourniret a été confondu, Il n'était plus en état de répondre à quelques questions que ce soit. Et ensuite, d'ailleurs, il en est mort. Donc, l'acteur principal du crime est mort pendant l'instruction, mais reste sa complice.
Vous dites, Éric Mouzin, on l'entend, qu'il y a eu quand même du temps perdu, beaucoup de temps perdu. Et puis, vous dites même cette phrase, vous dites, Michel Fourniret en est mort. Vous l'avez rencontré avant qu'il ne meure. Qu'est-il ressorti de cet échange?
C'était une personne qui était tellement dégradée qu'il ne pouvait rien sortir de cette confrontation. Donc elle ne présente aucun intérêt.
Aucun intérêt, elle est derrière vous et on le sent, vous ne voulez pas rouvrir ce moment. L'échange avec Monique Olivier, en revanche, pourrait, à vos yeux, vous aimeriez pouvoir lui parler à elle?
Écoutez, de ce que j'ai compris, de la manière de répondre de Monique Olivier aux questions du juge et des enquêteurs, c'est extrêmement compliqué, ça peut être une phrase à l'heure. Et ça fait quand même depuis 2019 qu'elle nous promène à donner des bribes d'informations. Alors je ne sais pas si c'est sa mémoire qui est défaillante, si c'est son principe de défense, si c'est une volonté de continuer à semer le mal partout. Toujours est-il qu'elle ne donne jamais une position précise, elle ne donne jamais une réponse claire. Elle s'abrite derrière une mémoire défaillante alors qu'il semblerait qu'elle n'ait absolument pas de problème de mémoire. Donc la perversion continue jusqu'au bout.
La perversion continue jusqu'au bout, fin des investigations. Donc dans le dossier de votre fille, on a tous en tête son visage, Estelle Mouzin. Merci Éric Mouzin d'avoir été en direct avec nous ce matin. Il est 7h19.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
On poursuit dans un instant notre journée spéciale sur RMC pour cette troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Olivier Dussopt, le ministre du Travail qui porte cette réforme, est l'invité d'RMC, est notre invité. Il répondra à mes questions à 7h40, à vos questions à 8h10, vos questions au ministre, c'est au 32-16. Et sur l'application RMC, il vous répondra en direct. Et puis d'ici là, le chiffre d'affaires dans un instant. Et Arnaud Demange qui pirate le 32-16.
Apolline Matin. L'indiscret RMC.
Les indiscrets du service politique d'RMC avec vous, Hélène Terzian. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Sandrine Rousseau sera mon invitée à 8h30 sur RMC et BFM TV. L'occasion d'évoquer avec vous la fin de l'enquête interne sur Julien Bayou au sein d'Europe Écologie Les Verts. Le député compte maintenant faire son retour.
C'est la fin de 7 mois kafkaïens. Voilà ce qu'on nous dit dans son entourage. Rappelez-vous, on est en septembre en pleine bataille interne pour la présidence du parti quand Sandrine Rousseau évoque sur un plateau télé des violences psychologiques de la part de son collègue Julien Bayou à l'égard de son ex-compagne. Une cellule interne avait alors été saisie. Sauf que depuis, rien. L'ex-compagne n'a jamais voulu témoigner. Julien Bayou a demandé, selon nos informations, à 10 reprises d'être auditionné. Refusé. L'enquête est fermée. C'est la fin d'une affaire qui n'en était pas une, réagit une écologiste. Pour une députée plus mesurée, ce n'est juste ni pour les femmes qui ont parlé, ni pour Julien.
Julien Bayou qui compte donc s'investir à fond dans son mandat de député maintenant.
Il compte monter au créneau sur la réforme des retraites. Pourquoi pas s'exprimer aussi à nouveau médiatiquement, pas pour parler de lui ni de l'affaire, nous dit-on, mais de fond. Mine de rien, il n'y en a pas tant que ça des personnalités écolo, lâche infidèle. RMC peut vous dire justement qu'il compte déposer une proposition de loi pour interdire les jets, textes qui pourraient figurer dans la niche parlementaire de son parti le 6 avril, jour exclusivement consacré aux textes déposés par Europe Écologie Les Verts.
Et j'interrogerai évidemment Sandrine Rousseau tout à l'heure à 8h30 sur sa responsabilité dans cette non-affaire, donc Julien Bayou.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h24 et c'est l'heure de l'économie.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chipon craignait un divorce entre Renault et Nissan et en fait, bah le couple a décidé de repartir sur de nouvelles bases.
Mais oui, nouvelle chance.
Une petite annonce love.
Ben oui, effectivement. Alors un couple, c'est même un trouble depuis 2016 puisqu'il y a Mitsubishi qui est aussi partie intégrante à tout ça. Mais c'est vrai que les deux gros acteurs, c'est Renault et Nissan, et donc effectivement après des années de tension, ils ont décidé de bâtir ensemble de nouveaux projets. Ça passait d'abord par un rééquilibrage du pouvoir entre les volet de groupe, puisque Renault possédait 43% de Nissan, Nissan 15% seulement de Renault. Du coup, Renault ne gardera que 15% de Nissan.
Et sur ces bases, quels sont les nouveaux projets alors ?
Attaquer des nouveaux marchés d'abord, l'Inde et l'Amérique latine notamment. Au Mexique, Nissan va produire des Renault en Argentine. C'est Renault qui lancera de nouveaux pick-up pour Nissan. En Inde, Nissan et Renault vont commercialiser des nouveaux SUV, dont un dérivé de la petite Dacia Spring. Et puis, les constructeurs envisagent également de lancer sur ces marchés où leur marge de progression reste énorme, deux petits véhicules électriques communs. Donc, attaquer des nouveaux marchés et puis lancer des nouveaux projets. Ensuite, Nissan et Mitsubishi vont participer au projet Ampère, la future filiale qui doit rassembler les activités électriques de Renault. 90% des véhicules électriques de l'Alliance seront bâtis sur des plateformes communes.
Est-ce qu'on peut dire que Renault est sauvé ?
En partie, c'était nécessaire cette alliance, puisque Renault était trop petit, trop seul, trop français, sans Nissan. Là, Nissan, Mitsubishi, Renault, c'est le quatrième groupe automobile mondial après Toyota, Volkswagen et Hyundai Kia.
7h25, Arnaud Demanche.
RMC, Apolline Matin.
Attention.
Demanche pirate, le 32-16.
Arnaud Demanche est avec nous, bonjour Arnaud.
Bonjour.
Vous êtes passé par le standard et ce qui fait réagir ce matin, c'est cette annonce du gouvernement qui va imposer un nouveau dispositif pour bloquer l'accès aux sites porno aux mineurs.
Oui, vous l'avez dit avec une voix suave.
Bah, je ne savais plus comment le dire.
Tu as l'air de fatiguer.
Julien, 15 ans, nous a contactés pour témoigner.
Il était temps. Nous, les ados, on peut voir des images traumatisantes sur ce genre de site. Moi, j'ai vu Michel Houellebecq tout nu. Je suis actuellement suivi par un psychologue. Mes parents ne m'ont pas assez protégé.
À ce sujet, Kevin Pélissard, le fils du couple Pélissard de famille XXL.
Le couple Pélissard de fameux, la famille famille.
Il s'est aussi lancé dans le porno amateur. Leur fils nous a écrit.
Chez nous aussi, on a un problème de contrôle parental. C'est nos parents qui se contrôlent plus. Alors c'est bien de bloquer l'accès au site, mais ça nous sert à rien. Avec ce qu'on a vu hier soir, on est vaccinés à vie de toute façon. Est-ce que vous pourriez bloquer l'accès à nos parents, par contre ?
Et enfin, le dispositif serait une attestation numérique pour certifier l'âge de l'internaute. Et Jean Castex nous a laissé un message. Une attestation numérique, quelle bonne idée ! Et Madame de Malherbe, je suis disponible pour la concevoir. Les parents des jeunes entre 8 et 18 ans téléchargeront un formulaire sur le site intérieur.gouv.fr à retourner par courrier à votre centre des impôts qui délivrera un QR code à scanner avec l'application Toussaint Nichon. Ce code permettra d'aller dans un sec-ce shop homologué par Gérald Darmanin entre 8h et 14h pour retirer une clé USB de forme phallique qui bloquera l'accès après reconnaissance faciale par webcam au site suivant. xvideo.com, pornetub, mamelon.fr, chaudasse-allemande.org, charlemagnien.com, papy-mamie son coquin. De toute façon, le temps que vous compreniez mon système, vos enfants seront majeurs. Avec Castex, no sexe. Et bien, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, Arnaud. Rendez-vous à 8h20, il est 7h28. À tout de suite pour la météo de journal. 7h30 sur RMC et RMC Story. Excellent réveil à vous tous, le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. Des actions locales sont en cours. C'est le cas dans la zone industrielle du Havre. Nous serons sur place au début de ce journal. Troisième journée de mobilisation au lendemain de la première journée de débat extrêmement tendu à l'Assemblée nationale sur le projet de loi, marqué par de vifs échanges entre les différents camps politiques. Et puis la course contre la montre est lancée en Turquie et en Syrie pour retrouver d'éventuels survivants dans les décombres au lendemain de séismes qui ont tué plus de 4300 personnes.
Troisième journée contre la réforme des retraites ce mardi, les Français se mobilisent.
250 rassemblements partout en France et moins que mardi dernier. De nombreuses perturbations à prévoir dans les transports en commun, sur les rails, compter un TGV sur deux en moyenne, mais aussi perturbations dans les airs, des actions locales également. C'est le cas dans la région du Havre ce matin. Martin Bourdin, vous êtes près de Gonfreville en Seine-Maritime pour RMC. C'est là que des dockers, des raffineurs, mais aussi des salariés de la pétrochimie et même des retraités se sont donné rendez-vous afin de bloquer l'activité économique autour du port du Havre.
Effectivement, et le résultat, Thibault, ce matin, c'est que des dizaines de voitures, de camions sont bloquées sur les ponts d'accès à cette zone industrielle, contraints de faire demi-tour, parce que le mot d'ordre est simple, personne n'entre, personne ne sort de cette zone qui donne sur le port du Havre. Des centaines de salariés et donc de retraités ont répondu à l'appel de la CGT pour bloquer tous les points d'accès depuis 6 heures ce matin et gripper l'activité du poumon économique de la ville. Un moyen de monter en pression face à l'absence de réponse du gouvernement jusqu'à présent. Frédéric Bichot est délégué de l'Union locale de la CGT.
C'est un premier avertissement à M. Macron. C'est un premier avertissement. S'il n'écoute pas, à un moment donné, ça va monter un peu plus fort et ça va monter. Et je ne sais pas comment ça va finir, mais des blocages comme ça, il y en aura d'autres. Et les manifestations pacifistes, à un moment donné, ça va peut-être s'arrêter aussi.
Des actions plus dures, des blocages que comprennent globalement ceux qui les subissent. Plusieurs automobilistes bloqués à l'entrée de cette zone industrielle me disaient ce matin soutenir ces actions syndicales.
Martin Bourdin en direct du Havre pour RMC. Jusqu'à 1 200 000 personnes ont manifesté mardi dernier dans le pays. Combien aujourd'hui? Probablement un peu moins, peut-être la conséquence d'une quatrième journée d'action samedi prochain. Alors les Français vont-ils rester mobilisés? Jean-Wilfried Forquet est allé vous poser la question dans les rues de Toulouse.
J'ai été la première, la deuxième non, la troisième je sais pas.
Malheureusement je pourrais pas manifester aujourd'hui et samedi parce que je pars quelques temps à l'étranger, donc ça m'empêchera de soutenir cette cause.
À l'heure actuelle les politiques ils font ce qu'ils ont envie de faire. Je pense que les gens sont plus entendus quand ils vont dans la rue. Donc.
J'irai pas manifester aujourd'hui et samedi parce que je perds deux jours. Ça fait quand même 200 euros sur mon salaire.
Donc. Je ne serai pas dans la manifestation tout à l'heure. Mais par contre, samedi, puisque mes obligations professionnelles me le permettent, je serai à la manifestation.
Et sur le plan politique, c'est dans une ambiance houleuse que l'examen du projet de loi a débuté hier à l'Assemblée nationale, théâtre de passe d'armes entre les différents clans. Les oppositions se sont succédées au pupitre afin de dénoncer la réforme et l'insoumis François Ruffin d'adresser un tacle à l'encontre du gouvernement.
Vous faites pitié. Voilà le sentiment que vous m'inspirez. Notre pays vient de traverser la crise Covid. Derrière, nous plongeons dans la guerre en Ukraine, avec l'essence à plus de 2 euros. Dans ce tunnel, quelle lumière allumez-vous pour les Français? Aucune. Aux infirmières, aux caissières, aux manutentionnaires, à cette France qui se lève tôt et qui va au boulot, qu'offrez-vous? 2 ans. 2 ans ferme. Formidable ambition. Vous faites pitié.
Quelques échanges sur le fond, trop peu, nombreux face aux invectives, menaces, intimidations des élus. RN et de la majorité ont été la cible de messages mal intentionnés, reprise des débats dans l'hémicycle ce mardi à partir de 17h. Et le débat se poursuit sur RMC, journée spéciale. On vous attend toute la journée au 32-16. Et dès la fin de ce journal, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sera l'invité d'Apolline de Malherbe. Il est 7h35 sur RMC. Chaque minute compte en Turquie, en Syrie, au lendemain de violents séismes dans la région. Les secours s'organisent pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres, parfois enneigés. Ibrahim habite une commune frappée par le séisme près de Gaziantep. S'il a réussi à s'extirper des amas de béton, sa femme est toujours coincée.
Je me suis dit que ce devait être la fin. On n'a même pas eu le temps de réagir. Le bâtiment s'est effondré sur nous. J'étais avec ma femme. Ma femme était coincée juste en dessous de moi. Ma femme est encore coincée là-dedans. Il ne faut jamais perdre espoir, mais elle est probablement morte. Je ne peux pas me résoudre à le dire, mais je n'ai pas d'espoir.
Et à cette heure, on dénombre plus de 4300 morts, plus de 30 000 blessés. Bilan provisoire en Turquie, en Syrie. L'aide internationale s'organise. 45 pays ont proposé leur aide. La France envoie 40 tonnes de matériel et près de 140 secouristes de la sécurité civile. 36 pompiers doivent également s'envoler dans la journée. On est toujours sans nouvelles ce matin d'Elena. Cette jeune étudiante infirmière de 21 ans n'a plus donné signe de vie depuis la fin du mois de janvier et une soirée d'anniversaire à Brest. La thèse de l'accident est privilégiée à cette heure par les enquêteurs. Un suspect a été identifié ce week-end, toujours hospitalisé. Ce dernier aurait tenté de mettre fin à ses jours par deux fois et aurait confié à son frère avoir commis une bêtise. Lucille Pascanet nous dresse le profil de cet homme de 36 ans.
Au troisième étage de cet immeuble gris, son appartement porte encore les traces de la perquisition. C'est ici que vivait le suspect, à quelques centaines de mètres du lieu où Elena a disparu. Certains voisins choqués le décrivent comme un jeune homme discret, poli. Bien connu chez les restaurateurs brestois, il a été chef cuisinier dans la très animée rue de Siam. D'anciens collègues parlent d'un bon vivant qui aime faire la fête et qui pouvait devenir excessif avec l'alcool. Pas un mot en revanche dans le bar du port où il travaille depuis 3 ans. C'est donc lui qui est au cœur de l'enquête depuis qu'il a confié à ses proches avoir fait une bêtise avant de tenter de se suicider. suicidé. Dans quelles conditions aurait-il croisé la route d'Elena qu'il ne connaissait pas? Y a-t-il eu un accident, comme il l'a laissé entendre? C'est l'une des pistes principales ici, mais le corps de la jeune femme reste introuvable et le principal suspect impossible à interroger. Il est toujours dans le coma à l'hôpital.
Les précisions de Lucille Pascanet, service police justice RMC, envoyé spécial à Brest. On termine avec un mot de ski. Place aux hommes ce mardi au Mondiaux de Méribel-Courchevel avec l'entrée en lice très attendue d'Alexis Pinturo à domicile, aligné ce matin sur le combiné.
Puis le quintet?
Le quintet, c'est à Cagnes-sur-Mer aujourd'hui, sous le soleil, à 13h50 sur RMC Découverte. Le 14, Shams Abad est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 7. Joli coup, le 14 et le 7.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h37.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
Et c'est chez nous que ça se passe sur RMC, avec vous tous au 32-16 et puis avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui vient de s'installer dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui défendez votre réforme des retraites à l'Assemblée. Vous la défendez depuis hier et ce matin. Vous allez répondre dans un instant à mes questions et aux questions des auditeurs. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h40, vous êtes bien sur RMC.
RMC, journée spéciale.
Mobilisation contre la réforme des retraites.
Olivier Dussopt est dans le studio d'RMC. Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour.
Vous êtes ministre du Travail, c'est vous qui portez cette réforme des retraites. Depuis hier, c'est dans l'hémicycle de l'Assemblée avec un débat très houleux. On va y revenir. Lors de votre prise de parole, vous avez d'ailleurs été traité de vendu. Vous qui êtes renvoyé devant un tribunal pour soupçon de favoritisme. On y reviendra, mais... Aujourd'hui, c'est la troisième journée de mobilisation. Est-ce que vous regardez ce qui se passe dans la rue ou est-ce que vous dites maintenant, non, ça y est, c'est à l'Assemblée?
Toujours. Il faut toujours regarder ce qui se passe dans une manifestation, dans une mobilisation. Il ne faut jamais être dans le déni. Les deux premières ont été des manifestations importantes avec un certain nombre de messages. Il y a des Français qui s'opposent à la réforme, qui disent, nous ne souhaitons pas travailler plus. Et d'une certaine manière, on peut entendre ce message.
Il n'y a pas des Français, il y a beaucoup de Français. Il y a une majorité de Français.
Pardon, mais j'ai dit il y a un instant que la mobilisation était importante. Il n'y a pas de déni. Mais il y a des Français qui nous disent, nous ne voulons pas travailler plus, parce que c'est un effort et nous pouvons l'entendre. Il y a aussi les Français qui ont des inquiétudes pour leur avenir, des inquiétudes pour l'avenir de leurs enfants. Je pense que la réforme que nous proposons, celle que nous portons, que nous défendons au Parlement, c'est une réforme qui est nécessaire parce que le système est déficitaire et si on tient au système, il faut le sauver. Nous avons aujourd'hui un peu plus de 1,5 cotisants pour un retraité. Il y a 30 ans, c'était 3 cotisants pour un retraité. Ça montre qu'il faut faire quelque chose.
C'est la réforme ou la faillite, c'est ce qu'a dit votre collègue Gabriel Attal.
Vous savez,
il y a un côté après, c'est moi ou le chaos.
Non,
quoi. Bah,
non mais Gabriel Attal s'appuie sur des chiffres, les chiffres du Conseil d'orientation des retraites. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, le système sera déficitaire d'1,8 milliard, mais dès 2027, c'est 12,5 milliards par an, et puis ça se creuse. Et en 2040, c'est 25 milliards par an. Si on ne fait rien, mais vraiment rien du tout. D'abord, il n'y a aucun nouveau droit, on n'augmente pas les petites pensions, on ne tient pas mieux compte de la pénibilité. Mais non seulement il n'y a pas de nouveau droit, mais en plus, en 10 ans, c'est 150 milliards de déficit accumulé, donc de dettes en plus.
On va rentrer dans le détail sur ces questions de pénibilité, sur ces questions de seniors, sur la question des carrières longues. Mais tout de même, ce qui me frappe, c'est que vous dites les chiffres du corps sont évidents. Si on ne fait rien, ça s'écroule. Vous parlez des milliards de déficit. Est-ce que, honnêtement, tout cela est audible pour les Français? Un, le corps, le rapport du corps, chacun y voit ce qu'il veut. Et vos adversaires eux-mêmes, prenant la même référence que vous, c'est-à-dire le rapport du corps, prennent d'autres scénarios possibles dans ce même rapport. Et puis surtout, vous dites, il y a des milliards de déficits. Après le quoi qu'il en coûte, on se dit que les milliards, au fond, quand vous les voulez, vous les avez.
Alors, deux réponses à ces deux questions. La première, sur le rapport du corps. Le rapport du corps, le Conseil d'orientation des retraites, c'est un rapport qui est adopté par les membres du Conseil, qui sont les partenaires sociaux. Il y a effectivement plusieurs hypothèses, mais il y a deux choses à avoir en tête. La première, c'est que, quelle que soit l'hypothèse, quelle que soit la convention comptable, pour reprendre des termes très techniques du rapport, il y a un déficit sur les 25 années qui viennent.
Mais qui n'est pas forcément de la même ampleur.
Et quand on regarde l'hypothèse centrale, c'est celle sur laquelle tout le monde a toujours travaillé. Et cette hypothèse centrale, elle dit quoi? Elle dit que c'est l'hypothèse d'un taux de chômage à 4,5% en 2027. C'est notre objectif, mais vous conviendrez avec moi, que si on passe de 7 à 4,5% de chômage, tout le monde sera content, mais que c'est un bon résultat qu'il faut atteindre. Dans ces conditions, et dans ces conditions pourtant optimistes, c'est 12,5 milliards de déficit en 2027 et presque 15 en 2030. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, il y a une réflexion, et je la partage avec vous. Nous étions, pendant la période de pandémie, pendant la période de mesures d'urgence, pour sauver l'économie, dans un contexte où, effectivement, nous avons beaucoup dépensé. J'étais le ministre du budget, je sais ce que nous avons dépensé. Mais nous l'avons fait dans un moment de crise très particulière, dans un moment où, ça peut paraître très technique, Mais la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne avaient ouvert les vannes et protégé, garantissé tout ce qu'on pouvait emprunter. Ça ne veut pas dire que ça ne crée pas de la dette, mais c'est de la dette garantie. Et aujourd'hui, nous sommes dans un moment plus normal économiquement. Et j'ajoute que nous sommes dans un moment où, du fait de l'inflation, du fait des tensions économiques, non pas en France, mais partout dans le monde, les taux d'intérêt que la France paye quand elle emprunte sont à 3%.
Donc on ne peut plus aller chercher des milliards comme ça comme on a pu le faire encore il y a deux ans.
Mais ça signifie deux choses très claires, très basiques. Soit on laisse filer la dette, et ça n'est pas soutenable parce que la dette est devenue beaucoup plus chère et insoutenable. Soit on peut dire on ne travaille pas plus. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on augmente les cotisations, les prélèvements. Ça signifierait, si on écoutait par exemple la France Insoumise, sans même parler de leur idée de retraite à 60 ans qui coûte 85 milliards d'euros, mais juste face au déficit d'aujourd'hui, sans leurs idées totalement infinançables, ça signifierait demander en 2030 à chaque personne qui travaille, à chaque salarié, à chaque travailleur, un effort de 500 euros par an. 500 euros de cotisation.
Vous avez chiffré à 500 euros par an l'effort qu'il faudrait faire si vous ne faites pas par salarié en France.
En 2030, mais c'est très facile. Hein. Il suffit de diviser le déficit public de 2030 par le nombre de personnes qui cotisent.
Olivier Dussopt, Laurent Berger alerte. Il alerte sur votre incapacité, dit-il, à regarder ce conflit social avec les bonnes lunettes. Et il précise surtout que vous avez l'air de favoriser la violence en quelque sorte. C'est-à-dire que quand les gilets jaunes étaient violents, vous leur avez lâché du lest. Quand les manifestants ne sont pas violents, et c'est ce qu'il dit, au pic de leur mobilisation, les gilets jaunes ont réuni 284 000 personnes, dit Laurent Berger, avec malheureusement trop de violence. Le 31 janvier, il y avait 1,27 million qui ont manifesté pacifiquement. Faut-il l'outrance, la violence et la hargne pour se faire entendre ?
J'ai beaucoup de respect pour Laurent Berger, il le sait. Et je crois que malgré nos désaccords qui sont réels et que nous assumons, il y a une capacité à parler et à se dire les choses de manière assez directe. Et je pense même, pour ce qui me concerne en tout cas, je ne vais pas parler à sa place, en confiance. Je ne crois pas qu'il y ait évidemment de prime à la violence ou à l'outrance. La réforme que je présente, celle que nous avons présentée il y a quelques jours publiquement avec la Première Ministre, ce n'est pas la même réforme qu'il y a 4 mois. Et si ça n'est pas la même réforme qu'il y a 4 mois, c'est parce que les concertations que nous avons menées sur la retraite minimum, on devait la faire pour les nouveaux retraités, on l'a fait pour tous les retraités. Ça signifie qu'1,8 million retraités actuels, c'est plus d'un sur dix.
Mais il y a des points.
Non mais pardon, c'est important, je me permets de finir cette phrase. Sur ce point-là, sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur l'emploi des seniors, la réforme que nous présentons a été améliorée grâce à la concertation. Je ne dis pas, ce qu'il faut être très précis et très clair sur les termes du débat. Je ne dis pas que là où il y a convergence avec telle ou telle organisation syndicale, il y aurait un accord. Il n'y a pas d'accord parce que les organisations syndicales ne veulent pas entendre parler de l'âge. Et donc, comme ils ne veulent pas entendre parler de l'âge...
Et que c'est le point que vous ne voulez pas négocier.
Ça signe un désaccord.
Mais sur le fond, sur les points, vous avez dit, par exemple, que cette réforme, elle était juste pour les femmes. Et quand on a regardé dans le détail, on s'est bien rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et que, proportionnellement, les femmes allaient quand même devoir plus travailler.
Non.
Pourquoi ne l'avez-vous pas dit?
Non. Là aussi, pardon, mais... Il faut être extrêmement précis. La réforme n'est pas injuste pour les femmes.
Elle n'est pas juste. Vous avez dit qu'elle est juste. Vous l'avez même vantée comme telle.
Eh bien, je vais vous répondre en deux points, mais vraiment, il faut que vous me laissiez aller au bout des deux phrases. La première phrase, c'est pour dire que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a un an, les femmes, structurellement, parce que leurs carrières sont plus souvent hachées, partaient plus âgées que les hommes, en départ effectif. Aujourd'hui, c'est le même âge. Demain, en 2030, les femmes partiront plus jeunes que les hommes. Plus tard, parce que nous remontons l'âge, donc les hommes, les femmes travailleront plus, mais plus jeunes que les hommes, ça c'est la première chose. Et il y a une question qui est posée avec cela, c'est la question des trimestres de maternité. Parce que ces trimestres, dans les années 70, remplacés, compensés, des trimestres qui ne pouvaient pas être cotisés, aujourd'hui il y en a en plus de trimestres cotisés, et parfois pour certaines femmes qui ont une carrière complète, il y a moins d'intérêt, et donc c'est pour ça qu'on va ouvrir un débat sur les droits familiaux.
Attendez, moi sur les droits familiaux, j'aimerais bien quand même vous poser une question. Vous connaissez la vie des parents des 4 premières années de l'enfant?
Oui, mais justement.
Non, mais la vie des parents des 4 premières années de l'enfant. Parce qu'il y a un petit alinéa quand même, Olivier Dussopt, qui est que oui, on peut partager ces trimestres avec le père, mais uniquement si on l'a décidé avant le quatrième anniversaire de l'enfant. Qui a inventé ce système?
Madame de Malherbe, j'ai même en ajouté. On peut partager, les femmes ont 4 trimestres de maternité. Il y a 4 trimestres que les parents peuvent se partager avant les 4 ans de l'enfant.
Mais avant les 4 ans de l'enfant, qui y pense avant les 4 ans d'un enfant? Vous avez vu la vie des jeunes parents?
Avant de me couper, laissez-moi vous dire que je suis d'accord avec vous.
Bon.
C'est quelque chose qui est intordable, pardon pour l'expression, mais il y en a d'autres. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui que la maternité, c'est 4 trimestres pour les femmes du régime général et 2 trimestres pour les femmes de la fonction publique. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui?
Donc, quand, vous allez améliorer
quand on parle de pension de reversion, qu'il y a 13 régimes différents et qu'avec 13 régimes, il y a autant d'inégalités. J'ai dit hier à la tribune, la première ministre a dit il y a 15 jours que sur ce sujet des droits familiaux, on veut un débat large et j'ai même ajouté hier un point qui est important. C'est qu'aujourd'hui, il existe une prestation d'accueil du jeune enfant pour aider les couples qui justement accueillent un enfant sur des questions de garde. Les classes moyennes en sont souvent privées et j'ai dit que nous étions prêts à relever les plafonds pour couvrir plus de monde. Puis il y a une deuxième chose que je voulais vous dire. Vous m'avez arrêté avant une deuxième phrase. Quand nous disons que cette réforme apporte de nouveaux droits aux femmes, je prends deux exemples.
Deux exemples parce qu'ensuite, il y a les auditeurs qui voudraient s'interroger, notamment sur les carrières longues.
Deux exemples. Le premier exemple, c'est que nous allons intégrer justement dans la durée prise en compte pour savoir qui est carrière longue ou pas, les trimestres de congé parental, et nous allons intégrer, pour savoir qui a le droit ou pas à la retraite minimum, des trimestres aussi de congé parental. Quand on sait que souvent ce sont les femmes qui ont les carrières hachées, que malheureusement, parce que notre système de retraite est le reflet des inégalités de carrière, ce sont elles qui sont les plus exposées aux petites pensions, intégrer ces trimestres, c'est une mesure de protection pour les femmes qui ont les plus bas revenus et qui ont les carrières les plus précaires.
Et on voit que le débat se poursuit donc et qu'il y a, vous en avez encore peut-être un petit peu sous le pied pour pouvoir négocier dans l'hémicycle, mais écoutez aussi le témoignage et les questions des auditeurs. Ils sont avec nous, ils vous interrogent juste après le journal de 8h. Vous restez avec nous, Olivier Dussopt.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Et on poursuivra évidemment cette interview d'Olivier Dussopt après le journal de 8h. Mais d'ici là, il y a Nicolas Poincaré qui nous rejoint. Des milliers de morts et de disparus après le séisme hier en Turquie. Un tremblement de terre extrêmement violent dans une région déjà fragilisée par les conflits à répétition. Expliquez-nous, c'est Nicolas Poincaré dans un instant.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles, avec un cocorico, la série française Le Bureau des Légendes, va être adaptée aux États-Unis, Charles.
Oui, un remake américain d'une série française, ça n'arrive pas tous les jours. Et pour couronner le tout, c'est un certain George Clooney qui va produire et réaliser cette version US du Bureau des Légendes, annonce de la chaîne payante américaine Showtime, qui a donc annoncé avoir commandé une saison entière de cette série qui sera baptisée The Department. Et le tournage doit débuter dans l'année. Ça fait quelques années, en fait, que les Américains s'intéressent au Bureau des Légendes. Le New York Times avait même classé cette série française comme la 3e meilleure série de la décennie. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, Le Bureau des Légendes, c'est donc 5 saisons au cours desquelles on suit les aventures des agents secrets français au sein de la DGSE, en particulier les agents infiltrés à l'étranger sous de fausses identités, avec dans le rôle principal Mathieu Kassovitz et son nom de code Malotru.
Je vous présente Guillaume de Bailly, que vous connaissez mieux sous le nom de Malotru.
Bienvenue au Bureau des Légendes.
Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver votre vrai nom?
Rien. Ah, agent, vous êtes clandestin. Pourquoi t'es à Paris?
Comment ça, pourquoi je suis à Paris?
Les légendes sont faites pour ça, pour faire écran.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas, le bilan des tremblements de terre en Turquie et en Syrie ne cesse de s'alourdir. On compte ce matin au moins 4300 morts et 30 000 blessés. Une situation d'autant plus dramatique que ce séisme, il a touché des zones de guerre.
Oui, les épicentres des deux séismes d'hier se situent en Turquie, dans une zone à majorité kurde. Ce sont des territoires montagneux, le lieu effectivement d'une guerre larvée entre les indépendantistes kurdes et l'État turc. Depuis des décennies, la répression répond à des attentats qui répondent à la répression. Mais depuis 2011, la situation s'est encore compliquée avec l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés syriens fuyant la guerre dans leur pays. Ils se sont installés, ou plutôt on les a installés, majoritairement dans les villes proches de la Syrie, entre Gaziantep et Diyarbakir, les villes qui sont justement les plus touchées par le tremblement de terre. Au moins 3 millions de Syriens vivent là depuis plus de 10 ans, pris en charge par la Turquie. Depuis 2016, l'Union européenne paye la Turquie pour qu'elle garde ses réfugiés et qu'elle les empêche de gagner l'Europe. Mais avec le temps, ces réfugiés sont de moins en moins acceptés par les populations locales, en proie à de plus en plus d'hostilité. Bref, avant même le tremblement de terre, on était déjà dans une zone de grande tension, avec une cohabitation très difficile entre 3 communautés, les Turcs, les Kurdes et les réfugiés syriens.
Et à l'instant, on apprend, Nicolas Poincaré, que le bilan est revu à la hausse, 4800 morts. En plus, au sud, il y a la Syrie, et là, la situation est encore plus compliquée.
Oui, encore plus compliquée qu'en Turquie, en raison de la guerre qui dure depuis maintenant bientôt 12 ans. Le nord de la Syrie est totalement morcelé. Une partie est tenue par les forces kurdes, le YPG, les Unités de Protection du Peuple, un parti très autoritaire
qui est en guerre à la fois contre le régime de Damas et contre les Turcs. Une autre zone autour d'Idlib est entre les mains des islamistes. C'est le dernier bastion des survivants de Daesh et d'Al-Qaïda. Et on ne voit pas très bien qui pourrait venir en aide aux réfugiés dans cette zone à cause des risques notamment d'enlèvement qui font que les tremblements de terre, à raison, vont hésiter à s'y aventurer, les humanitaires. Le séisme a aussi touché des territoires autour de la ville d'Alep, qui sont contrôlés par Bachar el-Assad avec l'aide de l'armée russe. L'armée russe qui a déjà commencé à venir en aide aux populations. Enfin, il y a des territoires en Syrie qui sont contrôlés par l'armée turque, qui a instauré une sorte de zone de sécurité et qui a commencé à y reloger des réfugiés. Le point commun entre tous ces territoires, eh bien, c'est la misère, l'extrême pauvreté qui règne à cause de la guerre. Le séisme, en fait, a fait des ravages dans des zones qui étaient déjà ravagées.
Le drame qui s'ajoute au drame. Merci Nicolas pour ces explications. Il est 7h56, dans un instant, le journal de 8h de Quentin Vinet, avec à la une les étudiants qui se mobilisent à leur tour contre la réforme des retraites. Et puis, ne manquez pas, le ministre Olivier Dussopt qui est resté dans ce studio d'RMC, vous venez l'interroger directement après le journal de 8h, vous connaissez le chemin, c'est le 32-16.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.